Bienvenue pour cette nouvelle émission de lecture en tête-à-tête. Aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous emmenons à la rencontre de Corinne Fleury, cofondatrice avec Anthony Valette de la maison d'édition franco-mauricienne Atelier des Nomades. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Après des études de lettres modernes et d'édition, Corinne Fleury est devenue écrivaine et éditrice mauricienne. Et vous êtes la cofondatrice des éditions, comme je l'ai dit, Atelier des Nomades. Vous vous intéressez à l'univers du conte et du métissage littéraire. Votre maison d'édition a été lancée en 2010. Son catalogue est dédié aux voix d'artistes natifs des îles de l'océan Indien. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous parler de votre parcours d'éditrice et d'écrivaine ?
Alors oui, bien sûr. Alors mon parcours peut-être d'éditrice d'abord, puisqu'en fait je suis venue à l'écriture par l'édition. Eh bien, à la suite donc de mes études en France, des études d'édition, j'avais envie de repartir à l'île Maurice pour mettre en place un projet d'édition, puisqu'en fait, pendant mes années d'études en France, où j'ai fait quelques allers-retours sur l'île, je suis repartie à chaque fois sur l'île avec un regard, on va dire, plus professionnel dans les librairies et vis-à-vis de la production sur place. Et je me suis rendu compte dans les librairies que la production locale était très peu présente, puisqu'en fait, la majorité des livres présents étaient surtout des livres venant d'autres pays, essentiellement du Nord, de la France, de l'Angleterre. Et j'avoue que j'ai été un peu surprise par ce presque désert, en fait, de livres dans les librairies, en tout cas sur le patrimoine local et d'auteurs locaux, ou en tout cas, ces auteurs-là n'étaient pas publiés par des éditeurs locaux. Donc, le projet est parti de là, d'un constat, et l'envie de valoriser, en fait, la culture d'abord de l'île Maurice, et ensuite, le projet s'est étendu aux îles de l'océan Indien, puisqu'en fait, ce même constat peut être fait dans plusieurs îles de l'océan Indien. Donc, j'ai commencé en fait par un livre de cuisine. C'était un livre sur la cuisine traditionnelle de l'île Maurice, Petit plat gourmand de l'île Maurice. Puisqu'en fait, ce qui m'avait assez frappé à l'époque, c'était les livres illustrés. Qu'ils soient d'art de vivre ou de jeunesse, ils avaient vieilli d'au moins 20 ans. Et je trouvais ça dommage qu'avec un patrimoine aussi fort et important, que les livres ne le montrent pas suffisamment. Donc c'était le premier titre qu'on a publié. Et ensuite, on a fait un titre en jeunesse, Contes de l'île Maurice, sur les contes traditionnels de l'île. Et à partir de là, plusieurs autres projets se sont découlés. Aujourd'hui, ont découlé. Et aujourd'hui, on a près d'une cinquantaine de titres à notre catalogue.
Pouvez-vous nous dire où est implantée votre maison d'édition ?
Alors, deux endroits, donc à la fois à l'île Maurice et en France, puisqu'en fait, une fois que ce projet a été implanté à Maurice, je suis revenue en France. Aujourd'hui, j'habite à Laval et je suis ravie de mener ce projet à partir de Laval, tout en ayant aussi un bureau à l'île Maurice, où on continue aussi à travailler à partir de là-bas. Donc c'est pour ça que c'est une maison d'édition que je présente toujours en disant qu'elle est franco-mauricienne, puisque même en tant que cofondateur, donc moi je suis franco-mauricienne et mon conjoint qui est le cofondateur Anthony Valette est français et donc on a à cœur de présenter la maison de cette manière.
Alors, pour pouvoir découvrir votre voix à vous et un peu aussi donc votre maison d'édition, je vous propose de nous lire un extrait de Grand Mama, qui est votre dernier album publié aux éditions Atelier des Nomades.
Grand Mama. Au bord de la rivière Latanier, vivait une vieille femme, rabougrie et revêche. Derrière les rideaux, par l'encoignure des portes, on craignait, on épiait, on chuchotait. « Ce matin, j'ai vu la vieille revenir de la montagne avec un panier, débordant de feuilles de toutes sortes. Prépare-t-elle un mauvais sort ?»« Avec son balai coco et sa poule noire qui la suit partout, quelle vieille sorcière celle-là !» Les enfants du village avaient entendu 1000 rumeurs au sujet de la vieille grand-maman. « Elle abhorre les enfants, elle les ensorcelle, elle leur donne des coups de balai, elle enferme les animaux !» Le petit Malo avait l'interdiction d'approcher la maison de la vieille femme. Il la guettait de loin. Et quand son regard croisait le sien, il le fuyait et pressait le pas. Un matin où la pluie crépitait, Malo sortit de chez lui à toutes jambes. Il était en retard pour l'école. Il jeta un rapide coup d'œil devant la varangue de vieille grand-maman et ne vit personne. Il décida alors d'emprunter le raccourci près de chez elle pour se rendre à l'école. Arrivé devant la maison en tôle, fabriquée de briques et de brocs, il l'entendit chantonner. « Mot passé la rivière Tanier, mot zoin un vieil grand-maman. » Son cœur se mit à battre la chamade. Il courut de toutes ses forces pour atteindre les bancs de l'école. « Vais-je être ensorcelé par le chant de la vieille ?» Toute la journée à l'école, il pensa à cette mélodie si douce, presque enivrante. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Malo décida de reprendre le raccourci devant la maison de la vieille grand-maman. Assise dans un fauteuil à bascule, une poule noire sur les genoux, elle chantait. « Mot passé la rivière Tanier, mot zoin un vieil grand-maman, mot dire li qui li faire là, li dire moi li la pescabou. » Malo aperçut alors une vieille femme aux rides de tendresse. Son cœur se remplit d'une profonde douceur. Se peut-il que tout le village se soit trompé sur la vieille grand-maman ? Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, c'était décidé. Il s'arrêterait devant la varangue de la vieille femme pour en avoir le cœur net. Mais elle n'était pas là. Malo fit un pas, puis deux, puis trois. La porte entr'ouverte grinça avec le bruissement du vent. Un oiseau s'envola brusquement dans les murmures de la montagne de Peterboff. Malo entendit miauler, glousser, piailler, caqueter, bêler. Les villageois ont raison, la sorcière enferme des animaux. Son cœur s'emballa. Malo s'apprêtait à s'enfuir quand il entendit de nouveau. « Mot passé la rivière Tanier, mot zoin un vieil grand-maman, mot dire li qui li fait là, li dire moi li la pescabou, ouai ouai mes enfants. » Faut travail pour gagner son pain. Ouai, ouai, mes enfants. Faut travail pour gagner son pain. Malo ouvrit la porte avec prudence.
Merci beaucoup pour ce temps de lecture chantée. Votre album, il a été inspiré par une chanson.
Oui.
D'ailleurs, on entend le titre de la chanson dans vos paroles, donc c'est La rivière Tanier.
C'est ça.
Je voulais du coup qu'on propose d'écouter cette chanson-là après la lecture de votre album.
Dans la main pour me gagner la vie. Saint-Pierre, va passer pas pour en Valmois, au Bizin, soit l'un des bouts au pays.
Il s'agissait donc d'une chanson de Rosemary Nelson, La rivière Tanier, une reprise en séga, musique traditionnelle de l'île Maurice. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que c'est que le séga ?
Oui, eh bien, le séga, c'est la musique traditionnelle de Maurice, donc qui est une... comment dire, une musique comme on a pu l'entendre, qui est très rythmée, avec différents instruments de musique dont peu sont connus ici, mais qu'on peut on peut un peu rapprocher à certains instruments qu'on connaît. Donc il y a la ravane, donc qui est un qui est comme une, on va dire un grand tambour avec une peau de cabri tendue séchée autour d'un cerclage. Ensuite, il y a différents autres instruments de musique. Il y a la guitare, il y a le triangle, il y a la maravane, donc qui est un comment dire, un instrument un peu rectangulaire avec des grains à l'intérieur qu'on secoue. Et en fait, c'est une musique qui vient en fait de la période de l'esclavage, puisqu'en fait c'est une musique qui permettait aux esclaves à l'époque de la colonisation sur l'île de se retrouver le soir et notamment les week-ends pour évacuer un peu leur dure journée. Et cette musique qui est une musique créole aujourd'hui fait partie de la musique de l'île, donc le séga. Et la chanson qu'on a entendue, donc La rivière Tanier, est une berceuse traditionnelle de l'île qui date du 19e siècle. Dans la version chantée qu'on vient d'entendre, c'est une version qui est plus récente et qui a été mise en séga, mais à la base c'est vraiment un chant que chantent notamment les mères et particulièrement les mères d'ailleurs à leur enfant. Et c'est une chanson que j'ai moi-même chantée à ma fille ici en France. C'est très curieux et je pense que c'est de là où est venue aussi l'idée de cet album, parce qu'en fait parmi les premières chansons que j'ai eu envie de chanter à ma fille, curieusement, en fait, cette chanson m'est venue en tête, alors que ça devait faire des années que je ne l'avais pas entendue. Et il y a un contraste qui est assez intéressant, puisqu'en fait, c'est une chanson qui est plutôt douce, donc comme toutes les berceuses. Mais les paroles, en fait, de la chanson sont assez dures, puisqu'en fait, elle parle d'une personne âgée, une vieille dame, qui, malgré son grand âge, est encore obligée de travailler pour subvenir à ses besoins. Et du coup, j'étais assez intéressée entre la douceur, en fait, de la musicalité de la chanson d'origine de la berceuse par rapport à ces paroles qui sont assez dures et qu'on chante pourtant au bébé.
C'est souvent le cas, hein. Il y a beaucoup de comptines, oui. Je trouve aussi, qui sont... assez difficile parfois. Je vais revenir sur votre maison d'édition, qui est née donc d'une passion et d'un désir de défendre une langue. Pouvez-vous nous dire, vous, en tant qu'éditrice, quel est le rôle et la place de l'éditeur et comment on peut savoir à qui on doit donner la parole dans une maison d'édition ?
Alors, c'est une question à la fois intéressante et difficile. Parce que, la question de la voix et de la parole, alors elle est vraiment intéressante, puisqu'en fait, c'est vraiment au cœur de la réflexion de notre maison d'édition. Comme je vous expliquais, c'est vraiment au démarrage de la maison d'édition, on s'est intéressé à cette question-là, puisqu'en fait, moi, j'ai fait des études de lettres, des études de lettres modernes. J'ai eu la chance de lire un certain nombre d'auteurs français, mais pas seulement. Et en fait, pendant mon parcours de lettres, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai découvert en fait la littérature mauricienne en étant en France. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'auteurs mauriciens que j'avais peu lu à Maurice, sans doute pour une question d'accessibilité. Et parce qu'en fait, ces auteurs-là étaient publiés notamment par des maisons d'édition françaises. Je me suis beaucoup interrogée là-dessus, c'est-à-dire en me disant, j'ai toujours été une lectrice en étant très jeune, depuis, je pense que depuis que j'ai appris à lire, j'ai toujours été lectrice. Mes parents, mon père avait une grande bibliothèque avec beaucoup de livres, mais je suis passée à côté de beaucoup d'auteurs, à côté de beaucoup d'auteurs mauriciens malgré tout. Et donc la question de la voix, elle est importante, parce que du coup, donc qui on publie, pourquoi on publie en fait ces personnes et de quelle manière on arrive en fait à faire porter ces voix. Et face à ce constat, c'est-à-dire à un constat personnel, je me suis dit d'accord, en fait, il y a des auteurs avec de très grandes qualités littéraires, ils sont publiés à l'étranger. On se retrouve face à un problème qui est très important, c'est-à-dire que, vous le voyez bien, en France, quand un livre est publié dans un grand format, en général, il coûte entre, on va dire, peut-être 16-20 euros à peu près. Donc, lorsque ce livre arrive à l'île Maurice, déjà, pour un public français, c'est quand même pas évident. C'est pour ça que les éditions de poche existent. Donc, c'est déjà pas évident d'acheter un livre à 20 euros. Donc, entre le taux de change, le transport, le coût de la vie. Donc, lorsque ces livres arrivent à l'île Maurice, autant dire que ceux qui peuvent les acheter, en fait, sont des populations qui ont la capacité financière de le faire. Donc, même si on aime lire, en fait, on se retrouve face à une difficulté qui est l'accessibilité aux livres, puisqu'en fait, le réseau de bibliothèques est très mal développé sur l'île. Donc, lorsque j'ai eu ce projet de maison d'édition, je me suis dit d'accord, en fait, je vais faire face à deux problèmes. La voix, donc qui on publie. Donc, pour moi, c'était essentiel, en fait, que les thématiques, que les auteurs, etc., aient un lien avec l'océan Indien, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est encore un endroit où on méconnaît, en fait, cette littérature-là. Donc, donner la place à ces voix méconnues. Et d'autre part, s'assurer que, en fait, leurs livres soient accessibles à la fois dans l'océan Indien à un prix accessible et en France pour leur faire sortir en fait des frontières en fait de l'océan Indien. Donc nos livres par exemple sont vendus environ entre 25 et 30% moins cher à l'île Maurice par rapport aux tarifs français. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous d'être à la fois en France et à Maurice, puisque ça nous permet justement de travailler avec les bonnes personnes localement pour assurer justement cette possibilité à la fois d'accessibilité en termes de présence en librairie et puis surtout de coût en fait pour que les livres puissent, enfin que le prix ne soit pas un problème pour l'accès à la lecture.
Et est-ce que c'est plutôt les auteurs qui viennent vers vous ou vous qui allez vers les auteurs pour les publier ?
Alors, au tout début, j'allais vers les auteurs. Maintenant, c'est plutôt les auteurs qui viennent vers nous. Donc, on reçoit beaucoup de demandes et c'est à la fois très intéressant et évidemment valorisant pour la maison d'édition. Mais on a aussi beaucoup de mal à y répondre parce que, enfin voilà, on est une petite maison d'édition, une maison d'édition indépendante et je tiens vraiment à l'indépendance. Enfin, pour moi, c'est pas juste un mot. Enfin, je crois que c'est ce qui permet justement de faire des choix de voix, de décider de publier une personne plutôt qu'une autre, de se dire que c'est important de publier cette personne parce qu'elle a quelque chose à dire. Et pour moi, le fait d'avoir quelque chose à dire est quelque chose de très important. C'est-à-dire, pour moi, voilà, il faut qu'on ait, enfin, quand je dis quelque chose à dire, c'est-à-dire, il faut que le livre ait un sens. Donc, après, peu importe ce qu'on veut passer dans le livre, mais je crois que l'écriture, en tout cas, qu'on veut transmettre est quelque chose qui ait du sens, que les auteurs aient réfléchi à leur projet, qu'on ait envie de les accompagner. Et chaque livre est accompagné chez nous avec la même importance. Et que ce soit un auteur de premier roman, et on en a publié quelques-uns, ou des auteurs plus importants, ayant aujourd'hui déjà une certaine notoriété, on les défend de la même manière. Voilà, cette indépendance-là nous permet justement d'expliquer que voilà, moi je suis pas capable de publier plus de 6 titres par an parce que j'ai besoin de défendre chaque auteur et chaque titre avec conviction.
Dans votre catalogue, on retrouve de la jeunesse, de la littérature, des arts de vivre, cuisine, des ouvrages autour de la langue. Est-ce que vous avez des barrières que vous êtes fixées au tout début, des styles que vous ne voulez pas publier ?
Alors, oui, il y a des barrières, mais qui sont pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que, par exemple, je ne publie pas de poésie. Alors, je ne publie pas de poésie, non pas parce que dit-on que la poésie se vend mal, etc. Mais c'est parce que c'est un genre avec lequel j'ai un peu moins d'affinité. Et donc, comme je vous évoquais tout à l'heure, c'est important pour moi de défendre en fait des ouvrages auxquels je crois et que j'arrive à défendre. Et j'estime qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de défendre, par exemple, un recueil de poésie. Mais voilà, tout comme ça pourrait être autre chose, hein, donc aujourd'hui c'est plus compliqué. Alors après, il y a en revanche, voilà, il y a des genres que j'apprécie personnellement, sur lesquels je ne me suis pas encore lancée parce que je ne sais pas encore comment agencer ça dans mon catalogue. Mais l'essai, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'en lis énormément. J'écris aussi, un peu dans notamment des revues, etc. Et donc, c'est un genre que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé le bon angle intégrer une collection d'essais au catalogue. Et puis on est aussi confronté au nombre de titres publiés, donc si je ne peux publier que 5-6 titres par an, donc plus je multiplie les genres, moins je fais de titres au sein d'une collection. Donc pour l'instant, en étant présent sur 3 segments, ça nous permet d'être quand même, d'avoir une proposition assez équilibrée.
Et combien de personnes travaillent au sein de votre maison d'édition pour défendre tout ça ?
Alors, on est un et demi. Voilà, on est un et demi. C'est une petite structure, donc forcément difficile en fait, hein. Après on travaille beaucoup avec des gens qui sont à leur compte, des freelances, etc., mais des freelances pour lesquels on a beaucoup de respect en fait en termes de travail, c'est-à-dire où par exemple en début d'année on va déjà leur présenter le programme de l'année, voir avec eux voilà les titres sur lesquels ils veulent travailler, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'économie la plus adéquate par rapport à la petite structure que nous sommes, bien que je me rends bien compte qu'on devrait être au moins 3 fois plus, mais voilà.
Oui, ça fait vraiment pas beaucoup. L'identité éditoriale passe aussi par l'aspect visuel des ouvrages. Pouvez-vous nous parler de comment est-ce que vous travaillez les couvertures, et notamment par rapport au catalogue littéraire, c'est tous la même, il y a une unité dans les couvertures, oui. On va pouvoir après la décrire parce que les personnes ne les voient pas là sous les yeux.
Oui, tout à fait.
Pouvez-vous nous parler de de ces aspects
Oui, bien sûr. Alors, pour la collection de littérature générale, alors toujours dans la cohérence du projet du départ, c'est-à-dire trouver un objet sur lequel on puisse proposer pour les populations, en tout cas l'océan Indien, un tarif qui soit accessible. Donc pour ça, on a décidé de faire un format qui est un petit peu plus grand qu'un poche, mais qui est moins grand qu'un format, on va dire, habituel de littérature générale. Donc on est vraiment dans un entre-deux, donc ce qui nous permet, dans un premier temps, de répondre à cette préoccupation qui était importante pour nous. Et puis effectivement, on a un motif qui apparaît sur chacun des livres avec un bandeau central en couleur. Et ce motif, c'est l'arbre du voyageur. Qui est un arbre endémique de l'océan Indien qu'on retrouve beaucoup à l'île Maurice, à Madagascar notamment. On aurait pu l'appeler la collection Arbre Voyageur, par exemple. Mais je trouvais qu'il y avait un bon répondant par rapport à la maison d'édition, l'atelier des nomades. Alors, quand on ne le sait pas, c'est peut-être pas très lisible, mais en tout cas, pour nous, voilà, c'était la question du motif avait été bien réfléchie. Et pour le bandeau, donc en fait, on demande à chaque fois à l'auteur s'il devait donner une couleur à son titre, quelle couleur serait en fait ce livre. Donc je vois que vous avez sous les yeux En bateau mangue, le silence et la douleur de Michel Rakotoson, donc qui a choisi un rouge latérite, qui est une couleur en fait qui est la couleur de la terre en fait à Madagascar. Donc et elle a choisi en fait ce rouge là qu'on a essayé de rendre sur le bandeau. On sort un ouvrage en septembre prochain qui s'appelle Les guérisseurs. Et en fait, dans ce roman, donc d'Amarnath Hosseini, dans ce roman, en fait, il est beaucoup question de la culture indienne et notamment avec un personnage qui se maquille ou utilise beaucoup le safran. Et l'auteur a choisi un jaune safran pour le bandeau. Alors, les gens ne font pas forcément toujours le lien, mais du coup, quand on nous pose la question, on est très content de raconter ces petites histoires. Voilà.
Et vous venez de faire également une très belle transition pour pouvoir parler de Michel Rakotoson, qui a été invité par Lecture en Tête dans le cadre du Festival du Premier Roman 2023. Elle est lauréate du prix Orange du livre en Afrique. En tant qu'éditeur, quel est l'impact d'un prix auprès d'un auteur ?
Évidemment, en tant qu'éditeur, on ne travaille pas dans la perspective d'avoir un prix. En revanche, lorsqu'arrive le prix, évidemment, auteurs et éditeurs sont très contents. Donc, en l'occurrence, pour Michel Rakotoson, c'était vraiment incroyable, puisqu'en fait Michel a longtemps résidé en France, où elle travaillait notamment à RFI, et puis elle est repartie il y a quelques années à Madagascar, où elle a monté une association pour aider des jeunes notamment pour l'écriture, la lecture, etc. Donc elle mène énormément de projets par cette association. Et ce qu'elle m'expliquait, au-delà du livre, hein, qu'elle avait beaucoup de mal à obtenir des subventions, beaucoup de mal à fédérer sur l'île autour de la lecture et de la littérature. pour une raison qui est simple, c'est quand c'est un pays qui est en souffrance économiquement, politiquement, donc évidemment, donc sont les premières préoccupations d'abord sont celles des préoccupations économiques, politiques, stabilité, etc. Et en général, on a un peu tendance à oublier la culture quand on est comme ça pris dans des spirales un peu compliquées. Alors le POLA, donc le prix Orange du livre en Afrique, a permis en fait à toute une population, et en fait moi au-delà du livre, c'est ce que je retiens, c'est qu'en fait il y a eu une espèce de regain en fait d'élan, d'énergie, de dynamisme, de se dire en fait on peut parler de Madagascar autrement que par les problèmes politiques, etc., économiques, des soucis qu'on peut rencontrer sur l'île. On peut en fait, un auteur peut gagner un grand prix, peut être entendu à plusieurs niveaux, et en fait on peut parler de Madagascar d'une manière qui soit positive. Et moi c'est ce que je retiens en fait de ce prix en l'occurrence, puisque ça a permis à Michel de débloquer un certain nombre de verrous vis-à-vis de ses projets et de pouvoir aider sur place les jeunes à mettre en place leurs projets d'écriture, d'édition, etc. Donc ça, c'était vraiment super. Donc moi, c'est ce que je retiens avant tout. Alors après, évidemment, Michel, ça lui permet, elle a été invitée à différents salons. Elle a été rapidement invitée au Salon international de l'édition et du livre à Rabat, qui s'est tenu il y a quelques jours. Elle est invitée encore à différents événements, notamment en France, dans les prochains mois. Et tout ça, ce sont de vraies bonnes nouvelles. Et qui dit invitation, en général, évidemment, présence du livre, dédicace, et pour nous, les retombées, elles sont de cet ordre-là. Donc, effectivement, donc ça, c'est, on va dire, les retombées immédiates. Et puis, ce qu'on voit aussi arriver derrière, et qui est arrivé très immédiatement, et ça, c'est assez... j'en rigole parce que presque systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est lauréat d'un prix, on reçoit une horde de manuscrits derrière. Donc voilà, ça me fait doucement sourire parce que, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que quelque part on est un bon éditeur, ou est-ce que ça veut dire qu'on est capable de produire des livres qui sont primés? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, enfin voilà, pour nous, c'est pas, le prix littéraire n'est pas une finalité. On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de titres qui sont finalistes de prix ou lauréats de prix, et je suis vraiment très contente et très fière parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences et puis beaucoup de temps, parce que moi je crois vraiment au temps long dans l'édition. Donc à chaque fois qu'on a des auteurs parfois qui envoient des manuscrits et qui pensent que leur manuscrit sera publié dans les 3 mois à venir, en fait je suis incapable en tout cas de répondre à cela. Parce que je prends beaucoup de temps à travailler avec mes auteurs et beaucoup de temps à préparer la sortie des ouvrages. Donc, ces prix permettent de récompenser aussi ce travail de longue durée.
Je reviens du coup au festival du premier roman qui s'est déroulé en 2023, organisé par Lecture en Tête, l'association grâce à laquelle nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager ?
Alors en fait, moi je suis vraiment très très reconnaissante de Lecture en Tête, parce que je suis arrivée à Laval il n'y a pas très longtemps, et quand je suis arrivée quelques mois plus tard, j'ai voulu rencontrer les organisateurs, les membres de Lecture en Tête, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est un éditeur français, on connaît forcément Lecture en Tête et le festival du premier roman, donc ça me paraît évident. Moi, je connaissais Laval par le festival du premier roman, donc voilà. Et donc, c'était important pour moi de rencontrer Lecture en Tête, et j'ai été aimée. Tellement agréablement surprise d'être si bien accueillie. Et alors, c'est mon anecdote, peut-être que ça paraît mineure, mais je pour moi c'est vraiment important parce qu'en fait, encore une fois, on est une petite structure, une petite maison d'édition, et en fait on a été accueillis à bras ouverts par l'association qui rapidement m'a invitée aussi en tant qu'éditrice au festival Lecture en Tête, et j'ai été ravie de pouvoir partager une table ronde avec Michel Rakotosson notamment, et par là même, du coup, s'implanter assez rapidement, en fait, dans la dynamique littéraire de la ville. Et pour moi, ça, c'était vraiment important. Donc ça, c'était super. Et le jour de la table ronde avec Michel... On a été scotché parce qu'en fait la salle était remplie et on était vraiment contente de voir que voilà, les gens avaient une telle curiosité à la fois pour un auteur malgache, un livre qui porte sur Madagascar, et puis aussi pour un petit éditeur. Donc c'était vraiment une très belle expérience, et donc voilà, je garde en moi cet accueil chaleureux.
Un grand merci Corinne Fleury pour ce partage. Nous aurons donc l'occasion de nous recroiser, vous aurez l'occasion de recroiser les personnes qui nous ont entendues sur le territoire. Je vous propose de finir cet entretien et de nous dire au revoir par une chanson que vous avez sélectionnée, Perfect Day de Lou Reed.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. A perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow.